en dirait des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Mickaël Goncalves,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. C'est une histoire de rencontre. Rencontre artistique d'abord entre la peinture et le cinéma, entre une peintre et son modèle, dans la France corsetée du XVIIIe siècle. La première est incarnée par Noémie Merlant. Adèle Haenel incarne la seconde devant la caméra de Céline Sciamma. Une rencontre amoureuse aussi entre deux femmes qui illustrent avec subtilité sur une toile de film la force de l'art, l'intensité du regard et la puissance du désir. Quatre mois après avoir reçu le prix du scénario au Festival de Cannes, Portrait de la jeune fille en feu sort ce mercredi sur les écrans français et vous m'en direz des nouvelles. Céline Sciamma, Adèle Haenel et Noémie Merlant sont avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là. L'action se déroule, Céline Sciamma, au XVIIIe siècle. Je le disais, on est en 1770. Sauf erreur de ma part, c'est la première fois que vous nous présentez un film en costume.
Pourquoi, absolument.
Pourquoi maintenant et pourquoi cette envie? C'est subite ou c'est au contraire une idée que vous caressiez depuis pas mal de temps déjà?
Moi, c'est une idée à laquelle je songe depuis que je songe à faire un nouveau film en l'occurrence. Mais c'était pas un désir préliminaire en réalité. C'est la réflexion autour de l'idée du nouveau film, l'idée de raconter une histoire d'amour, l'idée de parler d'amour et de création qui m'a menée vers cette idée de film qui se situerait dans le passé, comme une espèce de jeu aussi pour faire le film le plus contemporain possible.
Alors dans le passé, mais pas à n'importe quelle époque, puisque donc 18e siècle, c'est une période où les femmes peintres, comme le personnage qu'incarne Noémie Merlant, tenaient pas vraiment le haut du pavé, mais commençaient un peu à s'imposer. Il y en avait quelques-unes quand même.
Oui, il y en avait des centaines qui faisaient carrière à la faveur notamment de la mode du portrait, mais aussi de l'éducation donnée un peu plus aux femmes autour de la pratique artistique. Et ce moment des Lumières où il y a un peu plus de liberté, plus de revendications politiques, il y avait aussi une critique d'art féminine. C'est un moment en particulier. La chercheuse avec laquelle j'ai travaillé, Séverine Sofio, a fait un livre sur cette période qui s'intitule « La parenthèse enchantée », qui, je crois, résume bien ce moment un peu exceptionnel.
Mais est-ce à dire que ces femmes peintres de l'époque vous ont directement ou indirectement inspiré le personnage, ou il est vraiment sorti de votre imaginaire et de votre création à vous?
C'est un personnage qui est inventé. Il y en a aucune qui est vraiment un modèle pour le personnage de Marianne, mais en l'occurrence, il est inventé pour justement penser à toutes et travailler dans la vérité sociologique de ce personnage, qui est un personnage de fiction, mais qui les représente.
Donc vérité sociologique, c'est-à-dire que le personnage est censé être représentatif, si j'ose dire, des femmes peintres de cette époque.
Absolument. Il est fidèle.
Il est fidèle. Alors c'est vous, Noémie Merlant, qui avez la chance d'interpréter ce personnage. Qui est-elle, cette jeune femme, lorsque démarre le film? Dans quel état d'esprit est-elle?
Marianne, au début du film, c'est donc une femme qui, pour moi, est volontaire, curieuse, qui arrive sur une île parce qu'elle est mandatée pour faire le portrait d'une jeune femme, Héloïse, qui sort du couvent et qui doit se marier. Sauf que Héloïse ne veut pas se marier et donc ne veut pas poser. Et je vais devoir la peindre en cachette en me faisant passer pour sa dame de compagnie. Et oui, donc au départ, c'est une femme volontaire, curieuse, mais qui, oui, a la chance en fait d'être peintre comparée aux femmes comme Héloïse, et qui va malgré tout rester dans les règles, comme si elle avait la chance d'être peintre. Donc du coup, elle se sent malgré tout, elle aussi est enfermée dans quelque chose. Et grâce à cette relation qu'elle construit avec Héloïse, elle va trouver sa liberté dans sa peinture.
Alors elle vient effectivement, comme vous le disiez, avec une mission bien précise, à peindre le portrait de cette jeune fille qui est destinée à son futur mari. C'était un petit peu la tradition à l'époque. Problème, le modèle est rebelle, ne veut pas être peint, elle ne veut pas du mariage, donc c'est une excellente raison effectivement pour ne pas vouloir. Et c'est la mère du personnage que vous incarnez, Adèle Haenel, qui est jouée par Valeria Golino, qui va prévenir l'artiste qu'il va donc lui falloir ruser. Bande annonce.
L'homme intéressé par ma fille est Mélanie. Nous partons là-bas, si le portrait lui plaît.
Vous partirez.
Il faut que vous sachiez une chose. Elle a épuisé déjà un peintre avant vous. Elle a refusé de poser. Il n'a jamais vu son visage.
Pourquoi refuse-t-elle d'être peinte?
Parce qu'elle refuse ce mariage. Vous allez devoir la peindre sans qu'elle le sache. Elle pense que vous êtes une compagne de promenade pour quelques jours.
Elle pense que je suis là pour la surveiller.
Et vous, vous la regardez. Vous vous sentez capable de faire le tableau de cette manière?
Je suis venue pour vous peindre.
C'était donc ça, vos regards.
Quel en est le titre?
Portrait de la jeune fille en feu.
Voilà, Portrait de la jeune fille en feu, c'est donc le titre du film et le nom de ce tableau qui est donc prononcé, même dans la bande-annonce hein, qu'on vient d'entendre par la comédienne, en l'occurrence Noémie Merlant. C'est important que les mots soient dits, justement, Céline Sciamma, qu'il n'y ait pas seulement le titre du film qui s'affiche sur l'écran du spectateur, mais qu'il y ait une formalisation du titre par la parole.
Il y a une formalisation du titre. Le titre vient s'incarner vraiment. Il y a effectivement un tableau qui porte ce nom. Il y a aussi une image qui est l'affiche du film, donc on la divulgage pas, hein, qui est que le personnage prend littéralement feu. Et je crois que ça montre la volonté d'incarnation du film, sa volonté de créer des images, de faire plus que manipuler des idées. Et le fait que le film, le titre de film soit dit, c'est une idée de cinéma. Ça participe de ce désir d'inventer des nouvelles façons de dire et de montrer.
De l'excitation, en fait. Est-ce que vous êtes une jeune fille en feu?
Bah, un peu, je crois, ouais. Enfin, ça dépend ce que ça veut dire, mais ça veut dire si on est passionné, en colère, joyeuse. Enfin, il y a plein de façons de prendre feu, mais je pense qu'il y en a pas mal qui me correspondent, ouais.
Et qu'est-ce qui vous fait flamber?
Le cinéma, en fait. Enfin, l'excitation autour de l'art, autour de la création, le grand sérieux que c'est d'essayer de se confronter à des idées, comme l'a dit Céline, à des images, et d'essayer de faire se rencontrer la matière et les idées, c'est très excitant. Et voilà.
Alors, on connaît l'histoire que vous avez vécue toutes les deux, hein, Adèle Haenel et Céline Sciamma, c'est un secret pour personne. Vous avez d'ailleurs confirmé à Cannes ce qui pouvait apparaître comme une évidence, à savoir que le film avait été écrit, fait pour Adèle Haenel, Céline Sciamma. Est-ce que ce film, vous l'avez écrit comme un cadeau, comme un prêté pour un rendu, comme un hommage, comme un petit clin d'œil? Qu'est-ce que vous aviez en tête au départ?
J'avais en tête de retrouver Adèle pour travailler, sachant que notre échange intellectuel était vivant, ouais. Et que c'était le bon moment pour donner des nouvelles du présent et du futur, et donner des nouvelles du cinéma. C'est vrai qu'on a grandi dans nos carrières de façon parallèle, toujours en dialogue mais parallèle, et à un moment réunir nos forces, ça semblait évident.
Évident, c'est le mot qui vous est venu à l'esprit quand vous avez lu le scénario, quand Céline Sciamma vous en a parlé de ce film, Adèle Haenel.
Évident, c'est-à-dire forcément on a un terreau commun avec Céline, comme je vous ai dit, en parlant de la jubilation de la création, déjà on partage ça, la jubilation de la fiction. Et puis voilà, après, quand on parle de cadeaux, moi à chaque fois je bouillonne un peu, hein, parce que vu que je suis en feu, mais voilà. Je veux dire, je bouillonne un peu.
C'est un vilain mot, le mot cadeau ?
C'est pas que c'est un vilain mot, mais c'est-à-dire c'est plutôt une proposition à prendre comme une offre de collaboration. Je veux dire, tout.
Vous auriez pu refuser.
Non, j'aurais pas pu refuser parce que je pense que j'avais très envie de travailler avec Céline, mais je veux dire, c'est pas l'idée du cadeau, il y a le côté genre on déballe, bon bah voilà, c'est fait, là il fallait quand même le faire, fallait quand même plonger dans la création ensemble.
L'aventure commence à ce moment-là, quoi.
Voilà. Et c'était plus ça qui m'a vachement touchée dans la proposition que Céline m'a faite. C'était qu'en fait, c'était une confiance dans l'avenir et dans, justement, comme elle l'a dit, dans notre histoire qui était en train de s'écrire. Donc voilà.
Alors la première création, avant même de parler du film, la première création, c'est peut-être le tableau, hein, donc qu'on voit effectivement dans le film à plusieurs reprises, qu'on voit aussi dans la bande-annonce qu'on vient de parler. Et c'est vrai que d'une certaine façon, à travers le film, c'est l'histoire de la construction de ce tableau que vous nous racontez pas à pas, palier après palier. Céline Sciamma, est-ce que vous pouvez déjà commencer par nous décrire ce tableau?
Vous voulez dire le tableau, le portrait de la jeune
le
fille.
Le portrait de la jeune fille en feu, oui.
Alors, c'est un cadre qui est horizontal, donc c'est un paysage.
Oui.
C'est un nocturne. Il y a la lune qui perce à travers les nuages, et c'est ce clair de lune qui éclaire légèrement une petite silhouette qui est dans la lande, et cette petite silhouette, elle a une lumière au pied, et cette lumière, c'est une flamme, parce que c'est sa robe qui brûle.
Par qui a-t-il été peint, ce tableau? Parce qu'on croit évidemment dans tout le talent artistique de Noémie Merland, mais
oui.
Être actrice et être peintre, c'est pas tout à fait la même chose quand même.
Non, elle est très bonne peintre, mais ça reste son secret. Ce tableau, et comme tous les tableaux du film, a été peint par Hélène Delmer, qui est une jeune artiste de 30 ans, et avec laquelle on a inventé le style de cette Marianne.
Inventé le style. Vous avez inventé avec elle, avec Noémie Merland aussi, puisque c'est elle qui joue le rôle de peintre. Comment ça s'est passé, justement, Noémie Merland, les relations avec Hélène Delmer? Qu'est-ce qu'elle vous a appris? Qu'est-ce que vous attendiez d'elle?
Ce qu'elle m'a appris, c'est surtout ce regard, le regard du peintre. Comment il regarde le sujet. C'est un regard, la première fois que je l'ai vu travailler, parce que je l'ai du coup observé, il fallait que je chope ce regard-là, ces gestes, ce rythme. Et c'est un regard extrêmement beau parce qu'il est intense, concentré, vif, et en même temps il traverse tout le corps. Et en fait, c'est presque un regard magique qui est difficilement... je sais pas comment le raconter, mais il fallait que je le trouve, quoi,
oui.
Ce regard. Et ensuite, il y avait toute cette... C'est comme une danse, en fait. J'ai essayé de le travailler comme une danse avec elle. Je la voyais, elle faisait 3 pas en avant pour se rapprocher de sa toile, puis 4 pas en arrière, puis elle avait un rythme entre les regards posés sur le sujet, puis sa toile. Tout ça, c'était vraiment une chorégraphie. Et c'était très intéressant de trouver ensemble la chorégraphie de Marianne.
On va revenir sur la question du regard dans un instant, parce que c'est vraiment la question centrale du film. Pour moi, c'est d'abord un film sur le regard, et à travers le regard passe évidemment énormément de sentiments, passe l'amour, passe le désir, passe le questionnement, passe une forme, une façon d'apprivoiser ou pas aussi quelqu'un. C'est peut-être même aussi par le regard que passe le fait même d'exister, de s'imposer, de grandir. Enfin, il y a énormément de choses qu'on peut développer à travers la question du regard. Mais je voudrais qu'on s'arrête encore un instant sur ce tableau que l'on découvre vraiment au tout début du film. L'action se passe dans une école de peinture. Et c'est donc la peintre Marianne qui pose pour ses élèves installés face à elle en randonnion. Extrait.
D'abord mes contours, la silhouette. N'allez pas trop vite. Prenez le temps de me regarder. Regardez la position de mes bras, mes mains. Qui a mis là ce tableau ?
Je l'ai trouvé dans la remise. Il ne fallait pas.
Non.
C'est vous qui l'avez peint?
Oui. Il y a longtemps.
Quel en est le titre?
Portrait de la jeune fille en feu.
Ouais, et l'on sent dans les yeux un peu embués de Noémie Merland, dans le son un petit peu étranglé de sa voix, toute l'émotion que Marianne porte en elle lorsqu'elle évoque ce tableau, avec tout ce qu'il charrie évidemment avec lui. Alors là, elle est dans la position de modèle, le peintre. Il y a une sorte de renversement comme ça au début du film. Alors il y a un mot qui vient forcément à l'esprit quand on a affaire à une cinéaste comme vous, Céline Sciamma, à son actrice, a fortiori quand on a affaire à un ou une peintre et à son modèle, c'est le mot muse. Est-ce que c'est un mot qui convient à vos personnages, Céline Sciamma?
Alors c'est un mot qu'il convient d'employer pour m'adresser cette question. Et puis c'est un mot qu'il faut ensuite peut-être possiblement redéfinir et réinterroger. C'est ce que le film fait. Muse, c'est le mot qui a été donné aux collaboratrices, en tout cas aux femmes qui étaient dans les ateliers de peinture, de sculpture, de dessin, même de musique. Et ces femmes ont été invisibilisées dans l'histoire de l'art. C'était souvent le seul endroit où elles pouvaient participer, au-delà du fait qu'on a par ailleurs invisibilisé bon nombre de femmes artistes qui n'étaient pas des muses. Mais le film décide de réactiver, de re-raconter la relation entre le modèle et le peintre, comme les deux cerveaux dans la pièce qui échangent et s'inspirent mutuellement.
Adèle Haenel.
Oui, non, c'est-à-dire que moi je rebondis sur cette idée, c'est-à-dire de donner son aspect créatif au rôle de muse. Parce qu'on va toujours cantonner un aspect passif, et c'est pour ça que je reviens sur ce que vous m'aviez dit tout à l'heure par rapport au cadeau, il y a quelque chose de passif. Enfin, j'ai l'impression qu'on est cantonné à avoir, on est passivement déplacé d'un endroit à un autre, et c'est justement à cet endroit-là que le film travaille, c'est-à-dire dire, en fait, comme l'a dit Céline, il s'agit d'une collaboration artistique, comme l'a dit Noémie, il s'agit de savoir quelles sont les questions, en fait, qu'on se pose et ce qui engendre des débats d'idées par rapport aux couches de la peinture, etc. Enfin, je veux dire, et je trouve que dans ce sens-là, bah voilà, moi je suis vraiment très fière de participer à ça parce que en tant qu'actrice, on est souvent confronté à cette idée qu'on n'est pas forcément créateur, qu'on est plus genre, on nous a donné un rôle, on nous a dirigé, et on n'est pas forcément au centre des décisions prises, même esthétiques pour notre personnage.
Mais alors justement, comment est-ce qu'elle vous a dirigé, alors pour le coup, Noémie Merlant, Céline Sciamma, est-ce qu'elle vous a pleinement laissé libre, justement? Est-ce qu'il y avait une part de spontanéité, une part d'apport dans votre façon d'incarner le personnage? Ou au contraire, tout était vraiment écrit?
Alors tout était écrit, oui, on avait les contraintes de... Mais au contraire, on s'amusait avec les contraintes de texte, où oui, on colle aux mots. La mise en scène était précise, les gestes, les regards, tout ça était déjà présent dans le scénario. Mais malgré tout, c'est toujours un regard horizontal entre nous. Il y a toujours une manière de s'exprimer, de trouver notre liberté, même malgré ces contraintes de jeu. Et ce qui était un important dans la direction, c'était la retenue. Prendre le temps de voir qu'est-ce qu'on fait avec ces émotions qu'on ressent quand on est amoureux, comment on est présent avec ces émotions, comment on les dit ou on ne dit pas, et beaucoup, enfin dans le film il y a aussi beaucoup de sous-texte, en fait tout ce qu'on ne dit pas, tout ce qui ne passe pas par les mots, donc c'est le regard, c'est la manière de sortir une respiration.
Mais alors vous disiez à l'instant que les regards étaient très écrits dans le texte. Comment est-ce qu'on écrit un regard dans un scénario, Céline Sciamma?
Elle la regarde.
Ah oui, mais voilà. Ça c'est pas très précis quand même. J'imagine que quand on est comédienne, elle la regarde, ça peut être vague, parce qu'il y a plein de façons d'interpréter, d'incarner ce regard.
Bien sûr, mais la précision de la mise en scène, ça n'est pas l'intention psychologique ou l'intention émotionnelle, c'est le rythme.
C'est ce que j'allais dire.
C'est-à-dire que ce qui compte, c'est que c'est où est écrit, elle la regarde dans le scénario, enfin dans le déroulé de la scène, si vous voulez. Et ce déroulé de la scène, il est rythmique, il a sa musicalité, il a son sens, et c'est cette précision justement qui fait qu'ensuite les interprètes sont libres.
Alors justement, expliquez-nous, Adèle Haenel, comment est-ce que vous travaillez, quoi? Elle la regarde, vous voyez ça dans le texte, donc dans cette rythmique que Céline Sciamma nous expliquait à l'instant. Comment est-ce que vous passez des quelques mots écrits sur une feuille de papier au jeu face caméra?
Déjà, je veux dire que je pense qu'effectivement ce qu'a dit Céline, enfin moi je trouve que c'est exactement comme ça qu'elle dirige, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui va diriger avec le tempo. Et donc il y a des points de rencontre et des gestes extrêmement signifiants qui portent la structure de la scène comme une sorte d'architecture, si vous voulez. Mais entre ces points-là, il y a la façon dont notre vie souffle dans le personnage, si vous voulez. Et notre vie, elle est à la fois qui on est, mais c'est aussi les idées qu'on s'est fait sur notre personnage qu'on suit. Et c'est comme ça, en fait, qu'on collabore. Du coup voilà, après pour vous dire techniquement ça dépend vraiment des scènes, c'est aussi une question d'intuition, il y a un aspect sportif au jeu. Faut vraiment le voir comme ça, comme un truc de footballeurs qui vont improviser pendant un match, je veux dire il y a vraiment quelque chose comme ça.
Alors le regard précisément, le regard de Marianne, votre personnage Noémie Merlant, c'est le fameux œil du peintre ou bien c'est le regard d'une femme sur une autre femme avec des sentiments en train de naître et un désir qui grandit?
J'ai envie de dire, c'est tout ça, c'est plein de choses. C'est, oui, le regard du peintre, le regard concentré, et puis qui petit à petit lâche prise grâce à cette relation et d'amour et de collaboration. Et grâce à Héloïse, le regard prend de plus en plus vie, je dirais.
Mais est-ce qu'elle porte le même regard sur Héloïse lorsqu'elle la peint et lorsqu'elle ne la peint pas?
C'est pas, moi je dirais que c'est pas le même regard, surtout au départ, au début du film, mais ensuite la manière dont elle va justement trouver ce portrait, c'est-à-dire la vérité de ce portrait, c'est que elle apprend à la regarder avec une sincérité dans son travail, et elle apprend à aussi le fait qu'elle passe du temps avec elle en dehors de ses moments de peinture, elle capte de plus en plus de choses parce qu'elle laisse Héloïse s'exprimer en fait.
Donc c'est à la fois l'œil du peintre, mais aussi tous les sens finalement de l'artiste qui sont mis en éveil, sollicités en permanence, et qui permettent petit à petit d'arriver à une forme de vérité, Céline Sciamma, la vérité du tableau. Est-ce que le mot vérité, c'est effectivement le mot approprié ?
Oh bah, je pense que le film il joue plutôt à mettre en tension des questions, et que les œuvres sont toujours à mon avis quand même des réponses, alors je vais pas dire provisoires, mais du présent. Après elles ont cette chose, surtout quand on fait du cinéma, c'est un rapport entre le présent et l'éternité perpétuelle en fait, c'est-à-dire on cherche des moments et puis après on va les choisir et puis ensuite ils vont rester toujours. Je sais pas du tout pourquoi je suis partie là-dedans. Pourquoi je suis partie là-dedans ? La vérité. Oui, non, mais justement, elles ont un débat d'idées qui est vrai pour le cinéma et qui était vrai à l'époque aussi sur les débats sur le philosophique autour de la question du portrait, sur est-ce que le portrait c'est la vérité d'un moment ou une vérité éternelle ? Est-ce que c'est magnifier quelqu'un ou le regarder tel qu'il est ? Et je crois que c'est l'agitation entre ces questions qui fait œuvre.
Vous m'en direz des nouvelles ? Sur RFI.
VMDN avec la réalisatrice Céline Sciamma et les actrices Noémie Merlant et Adèle Haenel à l'avant-veille de la sortie du film Portrait de la jeune fille en feu. Alors on l'a dit, hein, l'essentiel du film tourne autour des regards et autour de cette relation entre l'artiste et le modèle, entre ces deux femmes. Mais il y a aussi un troisième personnage qu'on n'a pas encore évoqué, c'est Sophie. Sophie, c'est la jeune servante du château. Elle est jouée par Louana Bajrami, qui est vraiment formidable. C'est vraiment quelqu'un qui capte la lumière d'une façon vraiment, vraiment incroyable. Elle est formidable aussi dans le film de Cédric Kahn qu'on a reçu il y a pas tellement longtemps dans cette émission. C'est un personnage assez, assez mystérieux. C'est un personnage un peu charnière, finalement, entre les deux autres rôles. Comment est-ce que vous l'avez construite, Sophie, Céline Sciamma?
Je l'ai construite en tant que personnage, justement, en tant que sujet, alors que, bon, c'est le personnage de la servante, donc un personnage qui est assorti de tout un lot de conventions. Et justement, elle n'est pas regardée comme ça, elle n'est jamais un accessoire du décor, elle n'est jamais figurante de quoi que ce soit, alors que, bon, on pourrait la voir passer avec des plateaux ou des bougies en fond de plan. Et elle n'est pas non plus dans son emploi de servante, quasiment dans la théâtralité de ça, c'est-à-dire elle n'est pas en train de, on ne sait pas si elle sait, si elle ne sait pas, elle n'est ni adjuvante ni opposante, elle n'est pas en train d'écouter aux portes, on ne se pose jamais ces questions. Elle intervient à un moment comme personnage charnière, à un moment charnière, elle intervient quand justement l'amitié naît entre elles et quand elle a un projet elle-même, un sujet, un conflit, quelque chose à résoudre. Et c'est un personnage qui est pensé justement, c'est un personnage qui est très marqué sociologiquement, socialement, mais oui, qui sort de cet emploi et qui est pensé même qui raconte comment la sororité abolit la hiérarchie des classes.
Oui, de la sororité, c'est-à-dire qu'elles sont femmes, et donc malgré toutes leurs différences culturelles, elles sont sœurs.
Oui, elles sont solidaires.
Alors on est au tout début du film, on va remonter un tout petit peu en arrière avec justement une scène clé dans laquelle Louana Bajrami joue avec Noémie Merlant, puisque c'est elle qui va présenter le personnage d'Héloïse, le personnage d'Adèle Haenel à la jeune peintre à peine débarquée sur l'île. Alors elle n'est pas encore là, on n'a pas encore découvert Adèle Haenel à l'écran à ce moment-là du film. La scène se passe dans la cuisine du château et Sophie parle donc à la peintre de sa jeune maîtresse.
Vous m'autorisez à être curieuse ? Comment est votre jeune maîtresse ?
Je ne sais pas trop, je la connais peu.
Mais vous êtes ici depuis 3 ans.
Elle n'est là que depuis quelques semaines.
Où était-elle ?
Chez les bénédictines.
Elle a quitté les ordres ?
On l'a sortie du couvent. Parce que sa sœur est morte.
C'est elle qui devait se marier. La maladie l'a emportée?
Non. Vous pensez que vous allez y arriver?
Arriver à quoi?
À la peindre.
Ouais, et dans un premier temps, Noémie Merlant, Marianne, donc, va jouer son rôle de compagnie, accompagner Héloïse dans ses promenades, l'observer à la dérobée, fixer donc dans ses traits, fixer dans sa tête les traits de son visage pour ensuite les recomposer en secret dans sa chambre, vraiment en catimini, sur la toile. Elle va donc, pour commencer, lui mentir par omission, et forcément ça va être de moins en moins facile. Alors vous disiez tout à l'heure que votre personnage, et c'est vrai d'ailleurs pour l'ensemble des personnages du film, s'ouvre au fur et à mesure du film. Alors, on n'est pas au théâtre, on est au cinéma, donc j'imagine que toutes les scènes n'ont pas été tournées dans l'antre. Et c'est vrai qu'on a vraiment une sorte de progressivité comme ça dans les sentiments. Comment est-ce que vous avez fait, vous, en tant que comédienne, pour jouer comme ça en permanence, à la marge, petit à petit, monter dans la gradation des sentiments?
Bah, à chaque jour, on se fait, comment dire, un récap de tout ce qu'on a fait, de où on en est, de où on est le personnage. Enfin, ça fait partie du travail de construction. Et en amont, quand j'ai préparé le personnage de Marianne, pour moi, il y avait vraiment cette ouverture petit à petit, et même le rapport même au costume. Comme au départ, il y a un côté plutôt contraint. Et dans la manière de se mouvoir, de se tenir, de s'ouvrir, il y a cette phrase de Sophie qui dit à Marianne, est-ce que vous avez essayé d'être drôle? Donc à chaque fois je me tenais à tous ces moments-là du scénario, parce que tout est construit dans le scénario, et voir où j'en suis, quoi. Et comme je le disais malgré tout à l'heure, c'est que chaque scène était tellement construite dans une précision que même la manière dont on se frôlait ou dont on se touchait, je sais pas, j'étais dans le moment présent, en fait. Surtout dans le moment présent, quand on tournait, je regardais Adèle, je regardais comment elle va m'envoyer la balle, en fait.
Envoyer la balle, c'est un match de ping-pong,
oui,
ou de tennis, tourner un film.
Mais tout à fait, c'est-à-dire c'est malgré tout c'est un jeu, c'est du travail, mais il faut qu'il y ait de la vie dedans, donc il faut qu'il y ait du jeu. Et Adèle, elle aime jouer et elle aime faire des farces, et en fait c'est là aussi qu'on trouve la vie, et que nous, comme on disait tout à l'heure, en tant que collaboratrice, on s'approprie aussi notre histoire et on crée aussi notre langage à toutes les deux. Donc elle va me proposer, bah là j'ai un regard à faire, par exemple, elle a un regard à me donner, et bah elle va me le donner peut-être de deux trois manières différentes, et parfois c'est une manière dont je m'y attends pas du tout, et du coup je vais réagir subtilement, parce que c'est un film dans la retenue, subtilement, comment moi mon regard va répondre, ou comment ma respiration même va se troubler ou se... Et en fait, c'est le film, c'est surtout ça, même si on a pensé cette construction avant.
Surprendre votre partenaire, Adèle Haenel, pas seulement surprendre la réalisatrice, mais surprendre votre partenaire, c'est vraiment un élément majeur de la façon dont vous vivez un plateau?
Oui, de plus en plus, en fait. Parce que ce qu'a dit Noémie, c'est-à-dire... Enfin, vraiment, il y a une dimension ludique, je trouve, qui se sent. Et faut pas faire une opposition entre le sérieux et le ludique, quoi. Je veux dire, c'est juste, en fait, il y a un truc où il faut être à la fois très concentré et en même temps assez souple pour que il y ait un frémissement au moment peut-être des déséquilibres chez l'une et chez l'autre, parce que bon, bah moi je fais des propositions, elle fait des contre-propositions qui vont me déstabiliser aussi, enfin voilà, et puis profiter de cette énergie là pour jouer au-delà de la conscience aussi, quelque part.
Céline Sciamma, c'est parce que tout est écrit de façon extrêmement précise qu'on peut jouer à déstabiliser ceux qui jouent?
En tout cas, oui, c'est des points d'appui. Et puis, il y a aussi cette chose qui est que ensuite, il y a le montage, et que ça, on en est toutes conscientes, et que on peut donc aussi s'amuser à jouer avec différents niveaux de sentimentalité, d'expressivité selon les séquences, pour ensuite, avec le monteur, continuer à écrire leurs personnages en s'appuyant sur tout ce qu'elles ont inventé. Et donc ça, c'est des moments aussi qu'on décide ensemble, qu'on dédie, on dit là, on va monter d'un cran. Et donc les endroits où elles se déstabilisent, et surtout quand il s'agit de champ contre champ, je crois que c'est surtout à ce moment-là qu'elles ont pu opérer comme ça cette manœuvre. Et ben, c'est des matières. Du coup, parfois dans une prise où il y aura eu de la déstabilisation, il y aura eu une réaction qui sera dans le film. Ça sera peut-être la seule chose qui sera dans prise de cette prise.
Nouvel extrait, scène d'intérieur. Les deux jeunes femmes sont assises côte à côte et Marianne, celle qui n'est encore à ce moment-là du film que la dame de compagnie d'Héloïse, lui tend une pipe. Comment est-ce qu'on peut interpréter ce geste-là, Noémie Merlant, quand vous donnez cette pipe qui est toute blanche à votre partenaire et au personnage joué par Adèle Haenel?
Comment on joue
le
ça?
Le fait de donner cet objet-là. Deux femmes qui fument au XVIIIe siècle, c'est pas si fréquent que cela, sauf erreur de ma part. Je suis pas anthropologue, mais...
Bon, elles fumaient, hein, sinon, non, moi, elles fumaient.
Elles sont pas en public.
Elles buvaient, hein, et ça fume, elles fumaient. Bon, la cigarette n'existait pas, donc elles fumaient la pipe. Petite pipe de terre cuite, jetable.
Voilà. Qui n'était pas, très facile d'utilisation. Mais...
Votre mère est d'accord pour que vous sortiez seule demain. Vous serez libre.
Être libre, c'est être seule.
Vous ne croyez pas?
Je vous dirai demain.
Je vais aller à la messe. Vous voulez communier?
Je veux entendre de la musique.
L'orgue, c'est beau, mais c'est la musique des morts.
C'est la seule que je connaisse.
Vous n'avez jamais entendu un orchestre?
Non. Oui. Racontez-moi.
Ce n'est pas facile de raconter la musique.
Donc Marianne jouait non pas du clavecin mais de l'épinette, hein, en plaçant les mains sous le drap qui en recouvre le clavier. Donc on parle de musique, on parle de peinture dans ce film. Il y a aussi de la littérature, du théâtre avec le mythe d'Orphée et d'Eurydice, hein, qui arrive également au cours du film. C'est donc un film sur l'ensemble des arts, Céline Sciamma, et qui interroge aussi donc les sentiments, le rôle de l'art sur la force de l'art. On est dans un film en costume, on est dans un film d'époque et en même temps dans un film extrêmement contemporain aussi. C'est ça qui est intéressant. Même techniquement, d'ailleurs, vous avez choisi de travailler dans un format, c'est un petit peu technique, mais je pense que c'est important quand on en dise un mot, un format ultra contemporain, presque ultra moderne, presque un format d'avenir, le format 8K. Pourquoi vous avez justement fait ce mélange entre cette technique très neuve, très contemporaine, et puis un film très ancien en costume et qui parle d'art aussi?
La réponse est dans votre question.
Ah.
Non, mais c'est bon, on parle de la même chose, c'est bien. Effectivement, il y a l'envie, toujours, de film en film, de faire les objets les plus contemporains possibles. Et c'est pas parce qu'on se déplace dans le passé qu'on va cesser d'avoir cette obsession. Et au contraire, il y aura une vigilance encore plus grande, parce qu'il n'a pas sombré dans les tentations de l'académisme ou de la mondanité du film, parce que c'est un genre, le film en costume, hein, qui a ses règles, ses attraits, qui peut, et on sait jamais quel désir ça va mobiliser chez soi, la nouveauté. Mais en l'occurrence, on a su rester dans notre grammaire, dans notre ligne claire. Et justement, le choix du numérique, j'ai fait des essais aussi en 35 mm, donc en pellicule.
Oui.
Et le choix du numérique s'est imposé vraiment sur la question des visages, sur la question de l'incarnation, sur la question du rouge qui monte aux joues, sur comment la vie, justement, allait traverser cette image qu'on allait fabriquer. Et le 8K, c'est juste que c'est ultra défini. Voilà, c'est le niveau de définition de l'image. Et pour filmer la peinture, filmer le geste, la matière de la peinture, le travail, les couches, ça nous semblait rentrer, on rentrait dans la matière et dans la toile.
Mais cette démarche, elle est un peu à l'unisson du sujet, parce que on est dans une démarche donc cinématographique, mais qui est très très picturale. Il y a énormément de plans dans le film qui sont de véritables tableaux. On a vraiment l'impression d'une image que vous avez composer. Vous aviez en permanence cette idée-là à l'esprit avec votre directrice de la photo?
Alors, on n'avait pas l'idée de, on n'avait pas de référence picturale pour notre lumière, ni pour nos cadres. Mais on, en revanche, on voulait que ce soit très beau. Donc, comme on voulait que ce soit très beau, on s'est posé la même question que pour la peinture. Et ces questions, c'était, quelles sont les directions de lumière, où est la silhouette, et puis voilà, il y a un cadre, quoi.
C'est les plus mêmes que dans n'importe quel film. Parce que la direction de la lumière, c'est quand même quelque chose d'assez basique pour un cinéaste, non?
Bien sûr, oui. Non, moi, pour moi, je considérais que c'était le même travail. Sauf que le fait que ce soit un film qui ait envie de parler de l'art et de la beauté nous a mis on a mis la barre très haut sur le fait qu'il devait être très, 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 très beau.
Ça a une contrainte aussi au niveau du jeu, Adèle Haenel, dans votre façon de vous positionner par rapport aux éclairages, par rapport à la caméra, par rapport à vos différents partenaires. Je parlais à l'instant de scènes qui ressemblaient à des tableaux composés. Ça veut dire un travail là aussi, oui, au millimètre près avec les corps.
Oui, effectivement, c'est des contraintes. C'est des contraintes parce que parfois il y a des questions de profondeur de champ qui sont très très sensibles. Du coup, comme on parle technique, où du coup, on n'a pas forcément beaucoup d'espace pour se déplacer. Donc l'enjeu du jeu est ailleurs et sur le rythme de la parole, sur comment on utilise son visage par exemple. Après, comme l'a dit Noémie, c'est-à-dire toutes ces contraintes, ça donne une verticalité à la création, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, comme on n'est pas obligé, on peut pas aller dans les évidences, on est obligé d'inventer des chemins qui sont du coup pour moi plus verticaux, quoi, et qui incluent la technique et voilà. Et puis la caméra, enfin le travail de Claire Maton qui est chef opératrice, c'était vraiment intégrante de la mise en scène et prenait une part une grande part même du temps en fait qu'on avait pour créer les images, quoi.
Et les costumes, c'est une vraie contrainte aussi dans le jeu, dans les déplacements, on imagine, dans la gestuelle aussi.
Oui, mais c'est génial en fait. C'est-à-dire en fait quand on entend contrainte, faut faire attention. C'est-à-dire ça n'est pas que une contrainte, c'est aussi une joie de devoir inventer une nouvelle libération. Et puis pour moi, je trouve que ça permet de fantasmer, encore plus en fait, d'avoir un costume qui n'est pas celui de tous les jours. C'est-à-dire un costume qui est dans un voyage dans le passé, qui impose une nouvelle silhouette, c'est super. En fait, moi, j'adorais m'en saisir et puis vivre dans une sorte aussi de fiction, quoi.
Alors les costumes, vous les avez imaginés avec Dorothée Guiraud, Céline Sciamma. Oui. Donc le choix des couleurs aussi, j'imagine, est très important. Par exemple, il y a la scène du baiser, qui est évidemment une scène clé dans le film. Alors c'est vraiment une belle scène picturalement parlant, au-delà même de l'idée du scénario et de la progression de l'intrigue, parce que vos deux comédiennes portent des couleurs extrêmement franches. Il y en a une avec une robe verte, c'est vous, Adèle Haenel, et puis l'autre avec une robe rouge, Noémie Merlant. Comment est-ce que vous avez choisi le choix des couleurs de cette robe pour cette scène-ci? On se dit, c'est pas le hasard, quoi. Loin de là.
Alors, c'est marrant parce que il y a effectivement eu un très, très grand parti pris de costume sur la scène du baiser, mais il est plus question de foulard que de couleur, parce qu'elles sont, en réalité, elles sont, leur premier baiser, elles sont dehors et elles sont tout encapuchonnées, mais elles portent un foulard qui va devoir dévoiler leur désir. Mais je vois la scène dont vous parlez, mais globalement.
Qui est en intérieur, cette
oui,
chose.
Globalement, vous faites référence de toute façon aux deux costumes qui sont emblématiques des deux personnages, même si Adèle, le personnage d'Héloïse en possède deux, une robe verte qui sera la robe dans laquelle elle sera peinte et une robe noire qui sera la robe dans laquelle elle vivra. Cette robe verte, elle était écrite comme verte, je sais pas d'ailleurs pourquoi. Et ensuite, c'est tout un travail de nuancier par rapport à justement cette robe verte qui était déjà une couleur que j'avais élue. Ensuite, il a fallu travailler aux autres choix chromatiques et le grand, pour moi, la chose très nouvelle, c'était la teinte du costume de Noémie qui est plutôt dans les couleurs chaudes et qui est dans un rouge bordeaux lit de vin qui fait pas partie de mon nuancier habituel. Alors pourquoi on l'a choisi?
Pourquoi celle-ci, oui?
Ah bah parce qu'on m'a convaincue, parce que j'ai trouvé que la vision d'ensemble de la costumière était nouvelle et cohérente, et puis surtout parce que je sais pas, c'est comme inventer un costume totalement, c'est comme Tintin, quoi. Il faut choisir un truc fort. Voilà, le pull bleu, le pantalon golf, quoi.
Mais on a vraiment l'impression que les costumes évoluent avec la psychologie des différents personnages, avec l'évolution, avec cette ouverture qu'on évoquait tout à l'heure avec Noémie Merlant, ouverture très très progressive. Les costumes évoluent au même rythme finalement que les personnages.
Bah en tout cas, je pense que ils sont portés. Surtout, je crois qu'ils sont portés.
C'est-à-dire que c'est les personnages, c'est les rôles qui leur donnent justement cette dimension-là. C'est pas uniquement pictural, uniquement visuel.
Ouais, ça se défend parce que c'est le costume qui porte le personnage. Enfin, le costume porte le personnage dans la façon dont Adèle l'a décrit d'ailleurs, hein, comme une structure quoi.
Adèle Haenel.
Non, je suis d'accord. J'étais en train d'écouter Céline. Je suis tout à fait d'accord. Il y a un dialogue. Enfin après, moi, je sais que pour avoir fait donc quelques films en costume, il y a souvent eu un enjeu qui a été de vraiment courir le plus possible dans ces costumes, de sorte à ce qu'ils deviennent un peu moins des corsets, mais plus des, je dirais pas des jogging, mais un truc dans lequel on est un peu plus à l'aise, quoi.
Alors, Noémie Merland, vous avez été, sauf erreur de ma part, mannequin aussi avant de devenir comédienne, ça remonte, hein, voilà. Mais donc, mannequin, ça pose aussi, hein, comme un modèle pour un peintre, ça porte aussi des vêtements, comme ce que l'on vient d'évoquer. Est-ce que votre passé de mannequin a servi à nourrir votre rôle?
Alors, ça me paraît tellement loin. Ça a dû servir inconsciemment parce que, mais je dirais, le métier d'actrice, dans le sens où oui, on, par rapport à la caméra peut-être, mais en fait, mannequin, en plus, les rapports que j'ai eus avec les personnes qui me photographiaient, pour le coup, c'était vraiment dans un sens de muse, du coup, qu'on n'aime pas trop ce terme.
D'objet.
Et il y avait, voilà. J'étais plus vraiment là, l'objet, et du coup, il n'y avait pas beaucoup de. J'avais pas beaucoup de moyens d'expression et de il y avait pas vraiment de collaboration pour moi, alors que là on peut dire que dans ce film la collaboration et le fait de pas se sentir objet c'est le film quoi, c'est donc le rapport avec le mannequinat, oui, moi je le fais pas.
Céline Sciamma, c'est l'unique musique originale du film, un chœur composé par Jean-Baptiste de Laubier, c'est la musique du générique, c'est aussi la musique d'une scène clé qui se déroule autour du feu. Qu'est-ce que vous lui avez dit au compositeur?
Alors, au compositeur avec un S, parce que c'est Jean-Baptiste de Laubier et Arthur Simonini qui ont écrit le morceau, j'ai dit polyphonie, j'ai dit polyrythmie, et voilà, et voix de femme, chant en latin, et convoquer un imaginaire. C'est hyper dur de parler de la chanson pendant qu'elle passe, en fait, ça c'est super, c'est pas du tout évident. Je voulais pas d'instrument et je voulais voilà un cœur de femme puissant qui monte en puissance et qui accompagne les héroïnes dans,
ouais, qui correspond évidemment au film complètement, d'ailleurs dans son entièreté, si j'ose dire. Filmer les femmes, c'est l'œuvre d'une vie pour vous, Céline Sciamma?
Ah bon, en tout cas,
un regard de femme sur les femmes.
En tout cas, c'est les personnages que j'ai envie de raconter. Donc ça, je pense que ça changera pas. Après, est-ce que c'est l'œuvre d'une vie? Moi, je pense film après film. Mais en tout cas, oui, je fais un cinéma féministe. Et donc, de toute façon, ce que je filme des femmes ou des hommes, ce sera au cœur de ma démarche.
Cinéma féministe, cinéma féminin, Adèle Haenel?
Bah, de fait, dans le film, il y a quand même, l'idée était de créer que, en fait, bon, évidemment, le film, il y a une absence d'hommes. Et c'était de créer, je pense, cette absence permet aussi, déjà à cette intimité de grandir entre les femmes, et en même temps de créer comment dire, de souligner le sens de ce que c'est que de mettre aussi un homme dans le cadre, chose qui est assez rarement questionnée, on va dire, puisque c'est comme une sorte de normalité que voilà que les personnages principaux sont majoritairement des hommes. Et voilà, en fait, le film est un peu joueur avec ce truc-là, c'est-à-dire en fait fait ressentir au spectateur ce truc de, ah mais en fait oui, l'homme revient à la fin, dit bonjour et on a tous envie de pleurer quoi, parce que c'est la fin de quelque chose.
Merci, merci beaucoup Céline Sciamma, Adèle Haenel et Noémie Merlant, Portrait de la jeune fille en feu à partir de mercredi sur les écrans français.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
Avant de se quitter, direction Bruxelles pour découvrir La mémoire des arbres. C'est la nouvelle création du metteur en scène belge et directeur du Théâtre National de Bruxelles, Fabrice Murgia. La pièce raconte l'histoire de la troisième catastrophe nucléaire la plus importante de l'histoire après Tchernobyl et Fukushima, celle qui est survenue à Oziorsk dans l'est de la Russie en 1957. À Bruxelles, Johanna Hochstein.
Un vieil homme en combinaison entre sur scène, haletant, toussant, crachant. Il semble malade. Mais qui est-il ? Il enregistre des mesures sur son dictaphone. Un physicien peut-être ? Un survivant ?
Quand on a brûlé mes vaches, j'ai rien dit. Quand on a abattu ma maison, j'ai rien dit. Quand on a envoyé nettoyer les merdes des autres, j'ai rien dit.
En 1957, quand une explosion nucléaire survient dans l'usine de retraitement des combustibles d'Oziorsk, l'accident est tenu secret par les autorités. D'ailleurs, la ville n'existe même pas sur les cartes. Nadejda Koutepova, assistante en dramaturgie de la pièce, est originaire de cette ville. Elle est née après la catastrophe nucléaire. Quand elle était enfant, ses parents lui ont caché la vérité.
Je me souviens que je voyageais à ma grand-mère et chaque fois mes parents m'ont prévenu, m'ont averti que Nadia, tu ne dois parler avec personne. S'il te pose la question, tu viens d'où ? Dans notre ville, on fait quelque chose de spécial. Ça s'écrit de l'État et on ne pose pas des questions sur cela.
Ce quelque chose de spécial, c'est la course à l'armement nucléaire dans laquelle sont lancées la Russie et les États-Unis après la Seconde Guerre mondiale. La ville d'Oziorsk est en première ligne dans la fabrication du plutonium et ses habitants en sont fiers. Nadejda Koutepova à nouveau.
Pour nous, la puissance de l'État était plus importante que notre destin. On apprend cela à partir de petite enfance. On continuait à produire le plutonium pour première bombe atomique soviétique. On a créé le bouclier nucléaire de l'Union soviétique, de la Russie.
Le spectateur découvre ce secret d'État grâce au récit du comédien belge Jos de Pau, un récit entrecoupé de témoignages d'habitants originaires de la région retransmis sur grand écran. Impossible de ne pas être saisi par cette expérience immersive. Le spectateur doit en effet chausser un casque au début de la représentation. Un choix du metteur en scène Fabrice Murgia.
La radioactivité, c'est quelque chose qui est difficile à expliquer parce que c'est un ennemi invisible. Moi-même, je suis allé là-bas en zone contaminée et après 2 jours, j'avais complètement oublié. Et il fallait traduire d'une façon ou l'autre cette espèce d'oppression d'ennemi invisible qui flottait dans l'air. Et puis c'est une expérience sensorielle et je pense que pour parler de la maladie, de gens malades, il faut qu'on entende l'acteur tousser comme si on toussait à sa place.
Comme souvent pour ces spectacles, cette création est née d'une indignation de Fabrice Murgia quand il découvre l'existence de cette catastrophe nucléaire dans un reportage télévisé. Un accident qui a fait près de 400 000 victimes et pourtant méconnu du grand public. Fabrice Murgia veut pousser le spectateur à la réflexion.
Le spectacle n'est pas pro ou anti-nucléaire, parce que c'est un débat de société, et moi je ne me permets pas de dire aux gens ce qu'il faut penser. Et néanmoins, il pose la question de ce qu'on fait de cette planète aussi, sans être dans un écologisme frontal. Je veux dire, on enterre aujourd'hui des déchets sous terre parce qu'on est incapable de les envoyer dans l'espace. C'est quand même le rêve absolu d'envoyer tout ça loin. On écrit des hiéroglyphes dessus, des dessins au cas où une civilisation future les trouverait pour ne pas qu'ils les ouvrent. On se dit, bah ouais, en 50 ans, en 100 ans, peut-être en un siècle, on a fait des choses absolument dangereuses. Et puis, il faut le point de non-retour, il est là.
Une pièce qui se joue au Théâtre National à Bruxelles jusqu'au 22 septembre.
Reportage de Johanna Hochstein pour VMDN. On pourra aussi, sachez-le, voir la pièce en France le 20 novembre au Théâtre Jean Vilar à Vitry-sur-Seine près de Paris, les 16 et 17 janvier 2020 au Théâtre Joliette à Marseille et ensuite au Festival Mytho à Rennes le 31 mars et le 1er avril de l'année prochaine. Dans un instant, le journal sur RFI, on se retrouve demain avec l'écrivain Claro pour son roman Substance paru aux éditions Actes Sud et vous m'en direz des nouvelles.